Une vie, une œuvre, Sonny Laboutanci, Congo belge, 1947, Congo Brazzaville, 1995. Aîné de 7 enfants, Marcel Sonny, né d'un père zaïrois et d'une mère congolaise. Devenu francophone à l'école, il enseigne plus tard cette langue, ainsi que l'anglais. Celui qui gagne le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire, pour l'antépeuple, est aussi un poète. La fraternité est son essentiel. Alain Mabankou lui avait rendu visite à Brazzaville et raconté dans l'Humanité, il fallait écarter les branchages qui obstruaient le passage, longer une piste, et déboucher enfin devant cette cabane en bois dont la porte semblait ouverte toute la journée puisqu'elle était retenue par une brique en terre cuite. Nous entrâmes, je vis deux grands posters de Che Guevara et de Bob Marley. En 1992, il est élu député de Makelele. Repéré comme opposant, il ne peut quitter le pays pour se soigner quand il contracte le VIH et meurt à l'âge de 47 ans. Laetitia Biagi signe avec Christine Robert. Une vie, une œuvre, Sonny Laboutanci.
Bienvenue au laboratoire de physique, subatomique et de cosmologie de Grenoble.
Ça peut tomber. Je ne sais plus, ajoute un glorificateur. Non, ça peut tomber. Adjoint logique de telle manière que ça fait. Adjoint logique de Lucifer, glorificateur inconditionnel de la méchanceté pontifique du mensonge de Saint-Léon. Ouais. Bon, c'est pas grave, il peut le dire, c'est pas très important. C'est pas ça qui est gêne.
Votre correspondant ne répond pas. Si vous souhaitez déposer un message, composez le 1.
Laissez la chose aller sans commentaire, juste que ça soit théâtral comme une tirade.
Je prends ce que j'écris en poésie comme une manière de fenêtre. C'est une fenêtre par laquelle je dis que j'entre et puis que je sors, n'est-ce pas? Parce que pour moi, je crois que l'homme est à l'extérieur et il faut l'appeler chez soi.
1-2-1-2, Sonny Laboutanci, accélérateur de particules.
Allô?
Allô Aurélien, accélérateur de particules.
Moi, je trouve que l'idée de l'accélérateur et de l'accélérateur de particules, elle est quand même très opportune parce que finalement, ça se joue en deux temps. Je vois que d'abord, la matière, dans un accélérateur, elle reste elle-même. Elle est simplement mise en mouvement. Elle strie l'espace, elle avance très vite, très très vite. Parfois, elle rayonne un peu parce qu'elle est chargée électriquement, mais quand même, elle demeure ce qu'elle est. Et puis, dans un second temps, elle entre en collision. Et ça veut dire qu'elle convertit l'énergie en masse. E égale mc carré, nous a appris Einstein. En quelque sorte, elle transmute le mouvement en existence. Et ça, en effet, je crois que c'est un peu ce que fait Sonny Laboutanci avec la langue. D'abord la mettre en branle, faire des mots, des météores dans l'espace discursif, les faire fuser comme des phonèmes sur une sorte de, je sais pas, de trame de l'idiome. Il les laisse intouchés, comme en état de survol, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement modeste dans son écriture. Mais ensuite, il les fait se frotter, se rencontrer, il les fait s'impacter. Et là, tout devient possible.
Pour repousser à plus tard l'amour.
Et c'est cette incroyable énergie qu'il insuffle à l'écrire qui lui permet en quelque sorte de devenir de la matière. Et pas seulement de la matière textuelle d'ailleurs, je crois. Et ça, c'est ce qui confine peut-être presque à la dimension magique ou en effet ineffable de son écriture.
Bon, vous êtes prêts, vous ?
Avertissement. Au-delà de la vie et de l'œuvre de Sonny Laboutanci, écrivain et poète congolais, il s'agit ici de traduire l'émotion Sonny, de la transformer en vibration auditive, de transmettre une expérience humaine. Nous vivons tous pour le théâtre des existences ou celui de la scène, c'est Sonny qui l'a dit. Alors entrons dans le théâtre des existences. La pièce s'intitule Sonny Laboutanci, accélérateur de particules. Autour de Sonny l'homme question, les personnages sont l'astrophysicien Aurélien Barraud, le comédien auteur-metteur en scène Dieudonné Nyanguna, les généticiens Nicolas Martin Granel, Claire Iffard, Céline Gaungou, le grand comédien, professeur d'art dramatique habitué du zinc, Jean-Damien Barbin. le patron du bistrot, Méziane Cheba, la piviniste fracassante, Clotilde Pivin.
Voici maintenant Sonny Labou-Tansi, tel qu'il se présente lui-même. Né le 5 juin 1947 à Kimwanza, au Congo. Livre « La vue et demi, l'état honteux, le malentendu, l'aise-majesté, naître plus loin que jadis, la vie privée de Satan, sauter la vie et... Mais j'ai déjà habité tous ces mots. » Voici Sonny Labou-Tansi.
1982, France Culture, la poésie et le langage.
Je ne dis pas « je » à vos bombes, de peur qu'elles ne prennent ma pauvre âme et celle de mon frère et celle de ma sœur. Je ne dis pas « je » à vos rêves de fer, de peur que le ciel ancien ne me tombe sur le crâne et la lune et la nuit des nuits de nuit. Je ne dis pas « je » à vos cœurs chimiques, de peur qu'au ciel, le ciel ne meure. Plus jamais je à personne d'autre qu'à mon ancien rêve de rêver un autre rêve.
Le mot lui-même, je le considère comme une manière de... Bon, outil à la fois, mais également regard, n'est-ce pas ? Et ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le mot, mais c'est le rêve qu'il y a derrière le mot. Si vous voulez, les mots sont porteurs de rêves. Les mots élargissent le monde, n'est-ce pas ? Et on n'a pas d'autre possibilité, si vous voulez, d'élargir le monde, d'arriver à l'autre, que par justement ce petit rien de rien qui est le mot, mais qui est tout à la fois. Vous savez, l'homme... C'est un point de vue aussi que je donne là. Je pense que l'homme, qui est le centre pour moi, le centre des existences, si vous voulez, le piège pour cet homme-là, c'est de se circonscrire, de se spécialiser, de se dire « je dois faire... » Non, l'homme, il faut qu'il explose, moi, je crois. C'est l'explosion qui fait l'homme. Et ça, également, même ma poésie, c'est l'explosion qui est l'état civil de ce que j'écris.
Dans ce cercle culturel Sonny Labou-Tansi de Bakongo, la nuit où nous battons des tam-tams, circule le fantôme du grand prêtre, Sonny lui-même. Son nom inscrit sur les murs nous rappelle les paroles du prophète. Fils, sois fort, qu'il vienne le jour, qu'il vienne la nuit, affermis-toi, que 10 000 tombent à ta gauche et 100 000 à ta droite. Ne crains rien, marche droit comme une pensée. Une odeur de gens nous
épargne. Je suis Dieudonné Nyanguna. Je viens du Congo Brazzaville, où je suis né. Donc, je suis comédien, metteur en scène et auteur. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du théâtre dans cet héritage de Sonny Labou-Tansi, qui avait une magnifique compagnie de théâtre à Brazzaville, qui s'appelait le Rokadouzoulou Théâtre. Et donc, quand on était gamin dans le quartier, on partait voir ses répétitions.
Festival Mancina sur scène, où nous mangeons ce cyclone du verbe dans la maison du maître. Mancina sur les seins.
On va dire, Fouekadou, si tu hérites de quelque chose, il faut que tu le fasses fructifier. Parce que sinon, c'est une honte pour la personne qui te l'a légué.
Nous partions tous les soirs à la veillée du grand maître Sonny dans la rue Bemba Hippolyte, quand tout le monde le crut mort et que personne ne savait que chasse le Sonny, il revient au galop. Sonny a un cheval, c'est une grosse tête qui galope.
Qui galope, qui galope, c'est une grosse bête. Il en parle d'ailleurs dans les yeux du volcan.
Et toi, Dido, qu'est-ce que tu conseillerais comme lecture là, pour entrer dans l'écriture de Sonny ?
Je dirais de lire L'acte de respirer, qui est un poème de Sonny, qui est publié dans un gros coffret comme ça, qui s'appelle Sonny Labou-Tansi. Pourquoi ? Parce qu'il veut raconter une histoire et il ne la raconte pas et il parle. Il veut commencer « Il était une fois », mais il quitte la forme traditionnelle et parle. Il parle aujourd'hui, puis il reprend encore « Il était une fois ». Non, 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 arrête. Et c'est beau, cette manière chaque fois d'avorter rapidement la fiction pour amener la parole. Puis après, je le dirais aussi de lire « La vie et Demi ». Je trouve que dès que tu as 11 ans, tu dois commencer à lire « La vie et Demi » et ne pas le lâcher. On va rentrer dans une matière qui s'appelle « La vie ».
C'est pas qu'on va commencer à naître aujourd'hui. Je suis déjà né, mais on va rentrer maintenant dans sa matière A.
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O.
1989, France Culture.
Tire ta langue, les langues du théâtre francophone par Sophie Pillot.
Sonny Laboutonsi, je vous ai entendu dire lors d'une interview que vous aviez un combat, c'était les mots.
Oui, à deux niveaux peut-être, hein, ou à trois niveaux. Le premier niveau, c'est peut-être le niveau de forme, la forme des mots, mais ça c'est un amour personnel, quoi. Il y a des mots que j'aime, il y a des mots que je déteste, et je crois que chacun de nous est comme ça. Il y a des mots qu'il aime, il y a des mots qu'il déteste, dans leur longueur, dans leur façon de s'écrire, dans leur musicalité, et ça c'est peut-être le deuxième aspect, c'est la musicalité des mots. Bon, moi ça me préoccupe beaucoup. Et troisième, c'est le sens des mots. Un mot d'abord, moi je dis toujours qu'un mot c'est un cadavre, hein, et il faut lui prêter la vie. Je travaille à ça, c'est peut-être aussi le travail d'un écrivain.
Quand je regarde tout le travail que Sonny a fait avec sur la langue, et avec la langue, et dans la langue même, quelque chose de vachement très riche, je crois que c'est lui qui veut faire signe d'existence à l'autre, à celui qui est en face, au monde. La matière est le trait d'union qui le permet de s'exprimer devant l'autre, de faire signe de lui à l'autre. Et ce trait d'union-là est la langue. Et c'est quelque chose qui traverse évidemment toute l'écriture de Sonny, cette relation-là avec la langue, pour la simple raison que évidemment ça le fait accoucher à un autre endroit. C'est-à-dire, c'est comme s'il recréait du sens avec les mots, avec les images qu'il met en place, et plus qu'avec les mots, avec comment on l'entend du coup quand on lit ces mots. Comment on l'entend lui, parce que finalement, à la fin, et ça qui est intéressant, c'est comment on entend lui sonner. Ce n'est plus comment on entend le français, comment on entend lui sonner à travers cette chose-là. Il joue son rôle d'augmentateur de la langue. Et c'est une théâtralité assez intéressante. C'est-à-dire, c'est comme si la langue s'en allait comme ça, de dramatisation en dramatisation. Mais c'est pas le fait de ce qu'il dit qu'il dramatise. C'est comme si la langue s'auto-accouchait à l'intérieur de l'opération. Elle se dramatisait, elle se mettait en scène, elle se jouait, puis elle se surjouait, elle se grimaçait, puis elle arrêtait de se grimacer. Alors, ça n'arrête pas d'être une espèce de monstre de Frankenstein comme ça. Le plus beau jouet bâtard qui soit.
Bonjour, vous êtes dans les bureaux de l'équipe Manuscrits francophones de l'Institut des textes et des manuscrits modernes du CNRS qui travaille sur la génétique des textes. Dans le groupe Sonny Laboutonsi, il y a Céline Gaungou, Nicolas Martin-Granel, moi je suis Claire Riffard et je co-dirige en fait une équipe plus large Manuscrits francophones qui a plusieurs groupes de travail dont Sonny. Dans les avant-textes des auteurs, dans les traces manuscrites de leurs œuvres, nous trouvons des éléments qui permettent de décrire la création en chemin, en devenir.
Ce qui est frappant, ce qu'on peut dire d'après ce que Sonny a pu lui-même déclarer par la suite et d'après les manuscrits qu'on a pu retrouver, c'est qu'il a commencé à écrire assez tôt. Dès la fin des années 60, il envoie des pièces de théâtre au concours théâtral interafricain. Alors c'était un concours qui avait été créé par l'ORTF et qui, à partir de 67, et qui chaque année récompensait des dramaturges africains. Alors les 5 premiers lauréats voyaient leurs pièces jouées par des comédiens professionnels à la radio, et le premier, le gagnant, sa pièce pouvait être publiée. Donc en 1969, il envoie un premier tapuscrit intitulé Monsieur tout court. En gros, entre 69 et 74, il change à 9 reprises de pseudonyme. Vers au vinaigre, on a travaillé dessus, donc c'est l'un des premiers manuscrits poétiques, donc ça se présente sur 3 cahiers. L'un des cahiers est signé Sonny Polmar. Deux années plus tard, si on part de l'idée que c'est 67 en 69, Monsieur Toucourt, c'est Sonny Siano Soyinka. Et ça change en permanence, Marcel Sonny. Il y a même en 74, la création, le gangster Shabat, complètement mystérieux. Et il y a une vraie tension, puisque il lui arrive parfois, il y a l'exemple de la gueule de rechange qui un manuscrit qu'il projetait de présenter au concours théâtral interafricain en 1974. Et là, on a les plusieurs identités qui apparaissent. Tantôt, c'est on a la signature Esther Chaba et tantôt Sonny Labutansi avec l'apostrophe, hein, Labutansi. Lui-même donne une interprétation pour Esther Chaba. Il veut que ça sente la foudre. Pour Labutansi, il le dit. Hein, il fait un jeu de mots dans la correspondance, justement, dans une lettre qu'il adresse à Françoise Ligier, qui travaillait pour l'Ocora, justement, à l'ancêtre de RFI. Et Labutansi, hein, dans la boue de Brazzaville, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, Sonny Labou.
D'ailleurs, c'est pas son vrai nom, Sonny Labutansi. Il s'appelle Marcel Ansoni.
Oui, il s'appelle Marcel Nsoni, il est né Marcel Nsoni, donc Nsoni veut dire la honte en Congo, parce que c'était un enfant de la honte au départ, et ce qui est intéressant, c'est comment lui, il a créé le Nsoni Labutansi. Et que Labou, c'est le nom de son père qui n'a pas eu la naissance, et que lui, en créant le Nsoni Labutansi, c'est lui qui reconnaît son père dans son nom. Donc, et il enlève le N de Nsoni pour faire Sony, qui n'est plus voué à la honte. Donc c'est une fabrication réelle qu'il crée.
Lui-même se crée par son nom. Hein, le fait de se donner un pseudonyme, c'est une sorte de seconde naissance dans le monde de l'écriture. Et il y a vraiment cette conscience de se créer dans l'écriture. Peut-être pas de créer un personnage d'écrivain, mais pratiquement, quoi.
Et il se trouve que pour Sony, on a trouvé plein de manuscrits, des versions non datées. Donc il s'agissait d'établir, comme on dit, le dossier génétique. Et donc on s'est retrouvé dans le labyrinthe des textes avec dans ces traces d'un processus infini. Alors on dit toujours que Sony appartient à cette littérature du fleuve dans un flux continuel avec la caractéristique des textes de Sony qui apparaît tout de suite, c'est très peu de ratures. Il n'y a pas de dossier comme chez Flaubert ou de dossier qui est préalable. Chez Sony, c'est tout de suite directement du texte.
Et toi, généticien, qui a connu de son vivant Sonny Labutansi, comment est-ce qu'il s'est présenté à toi ?
Tout d'abord, j'ai rencontré Sonny à la fin de sa vie. Quand je l'ai connu, j'avais déjà travaillé sur ses textes, j'avais travaillé sur son humour en particulier. C'était évidemment intéressant de l'entendre parler. En plus, c'était la grande période, la révolution démocratique, on peut dire, le dégel des paroles, à Brazza, c'était 89, la chute du mur. Donc, je l'ai connu dans ces circonstances de l'engagement politique, au moment où il écrivait dans les journaux. Enfin, c'était un gros travail d'essayiste. Et puis, surtout pendant la guerre, de 93, 94, voilà. Alors, il lui arrivait de me donner des textes à lire, oui. J'ai lu Le commencement des douleurs, un manuscrit. Mais en fait, il faut savoir que le travail de l'écriture se faisait la nuit, lui. On pouvait venir à toute heure, il était accessible. Hein, on le voyait, on parlait, pas forcément de littérature. On pouvait aller danser, on pouvait aller rigoler, boire un coup. Mais l'écriture est quand même un lieu secret qui reste quelque chose de l'intime. Rentrer dans sa chambre, c'était un sanctuaire. Et à sa disparition, donc en 1995, avec l'association des écrivains congolais, après sa mort, après donc 3 mois après, on a pu essayer de pénétrer dans le bureau, chambre de Sony où il travaillait, et sans savoir ce qu'on allait retrouver. Et c'est là où on a retrouvé ses cahiers couverts de son écriture, on peut dire jusqu'à la gueule, parce que quelquefois il écrivait jusqu'au bout, il reprenait un autre. Les manuscrits de Sony sont essentiellement des cahiers d'écoliers, mais qui sont conçus comme des livres au sens, comme des manuscrits quasiment du Moyen-Âge, avec des titres enluminés qui sont même des dessins. Et donc ça, on s'est dit, il faut absolument le mettre. Alors, donc en général, on a mis la première page, la page titre. On a commencé par les poèmes, d'une part parce qu'ils n'étaient pas publiés, donc c'était des inédits. On a commencé par les publier pour le 20e anniversaire de sa disparition, donc en 2015. On est arrivé à 1200, 1300 pages. Alors, ça, c'est ce qu'on a mis, le premier poème, on pense, qui est perdu au milieu de notes de cours. Et ça, on a pu le dater facilement de l'année de première à Brazzaville, 1967-1968.
Une fois 2 égale 2, 2 fois 2 égale 4, que griffonne l'enfant noir au tableau noir de sa mémoire, Sally Decret ? Que griffonne-t-il sur ces quelques jours de faim ? sur son orgueil pur sang, sur sa blanche ignorance de nègre. 2 × 2 = 4, disait Pythagore ou Pythabore. Et l'enfant cite, et l'enfant récite, affamé. Dans sa poche percée, au lieu d'un morceau de fusain, c'est le sexe qu'il se prend, entre pouce et index. Encore, dit le maître, 2 × 3 = 6. Et le tableau noir lui dit, ô frère de peau, et frère de peau. Mais sans lever la tête, et méchamment, l'enfant répond, menteur. On écrit sur moi avec du ciment armé, on écrit sur moi avec des noms latins et des mots de France, on rature mon génie, on m'exporte avec le bois noir. Et le tableau noir rougit pour chaque faute de grammaire. 2 × 2 = rien, dit l'enfant surmené de chiffres.
Quand et comment s'est manifestée votre vocation d'écrivain ?
1989, Les auteurs de la création, Festival des francophonies à Limoges.
Alors, je crois que c'est un chemin assez long. J'étais au Congo belge, où j'étais alphabétisé en Congo, une des langues du pays. Et mon oncle n'a pas voulu que ça soit comme ça. Il est venu me chercher un peu manu militari. Et il m'a mis au cours moyen première année, je crois, où on parlait français. Et moi, je parlais pas français, pas un mot de français. Et il y avait le symbole. C'était une grosse boîte pleine de merde qu'on vous accrochait au cou si vous parliez votre langue maternelle ou si vous faisiez des fautes en français. Et évidemment, c'est moi qui étais le propriétaire du symbole. Alors à tout moment, comme je pouvais pas le passer aux gens, j'ai payé. J'ai donné un morceau de pain, un morceau de manioc à un voisin pour qu'il prenne le symbole. Et puis j'ai dû donc apprendre le français très vite. Très vite, c'est-à-dire cours moyen première année et au cours moyen deuxième année. Après, je suis parti au collège à Boko et là, je me suis occupé de la bibliothèque du collège. Et quand nous sommes arrivés en classe de quatrième, j'ai fait la découverte des sciences naturelles, l'univers complexe de la paramécie, de la spore en botanique. Et ça m'a tellement troublé qu'il y ait eu des mondes comme ça à côté. Alors j'ai acheté une loupe et puis j'ai commencé à faire des expériences, j'ai cultivé des paramécies dans un coin de la classe. Et notre surveillant général était mécontent. Il a dit, mais tiens, il fait des fétiches dans la classe, c'est pour que les autres n'arrivent pas à s'admettre aux examens. Alors, il a pris tout, il a confisqué tout mon petit laboratoire. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir dire les choses. Hein. J'ai commencé à écrire des poèmes. Puis en troisième, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Le Premier Pas. Je l'ai envoyé au Seuil par la poste. Alors ils m'ont envoyé une longue lettre en disant, vous avez du souffle, c'est bien, mais il manque le travail. Et puis peut-être que ça partait de là, quoi.
Bien, on va faire ça comme ça.
Le vide que tu as laissé en partant a permis à la mort de la vie de nous prendre en otage. Ah, cette peur. Mais nous ne pouvons plus continuer à subir la défaite de l'humain sans demander des comptes à l'histoire. Nous sommes fatigués de notre impuissance.
Sonny Laboutancy a écrit Antoine m'a vendu son destin. Une pièce de théâtre que j'aime bien depuis des années. Et un texte qui m'intéresse beaucoup par rapport à ce qu'il raconte sur ce dictateur-là qui croit forcément qu'il y a des gens qui veulent fabriquer un coup d'État pour le descendre. Mais c'était aussi l'époque des coups d'État, hein. Sauf qu'une fois que le coup commence à marcher, c'est-à-dire une fois qu'on annonce cette déclaration-là qu'Antoine le monstre a trahi la République et tout, donc quand il part en prison, qui est cette fausse prison au fait au départ, sauf qu'il y reste parce que Moroni, Grifoni, qu'il a laissé là aux commandes, ils ont confisqué le pouvoir pour de bon.
Tu n'aurais pas dû, Antoine, partir en ces temps-là. Pas en ces temps-là. Surtout pas maintenant encore. Car chaque jour que le soleil fait, tu n'arrêtes pas de partir de moi.
Donc du coup, Antoine se trouve piégé dans son propre rêve. Il restera dans cette prison de Bratra qui ne quittera plus. Mais pas contre coup de théâtre. C'est qu'on reste en prison. Finalement, le gars, il s'assagit. Et se transforme.
J'ai enseigné ton histoire aux enfants. Mais ils n'arrêtent pas de mourir, faute de ce qu'ils n'ont pas compris. Il serait plus judicieux que tu reviennes toi-même leur parler. Le monde en serait moins barge, bizarre et barbare.
Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Ce rachat-là, cette reconversion-là, cette manière de croire au possible. qu'il est possible de...
M'entends-tu, Antoine? Antoine, reviens à la maison. C'est moi, Yoko Ayele, ta femme qui te parle. Reviens.
Moi, j'écris donc le fameux procès sur Sony, que j'appelle Sony chez les chiens. Et donc, je fais dialoguer les deux pièces, dans les deux textes, celui de Sony et celui que moi j'écris. Je rentre tout droit, moi, Dieudonné Nyanguna, je veux jouer la pièce de Sony. Donc, en tant que de son destin, je porte les personnages de Sony. Et Diarra, Diarretu Keita, va jouer, évidemment, ce que moi j'écris sur Sony, qui est Sony chez les chiens.
Allez-vous-en ! Antoine n'est plus de cette tragédie. Son rêve s'est envolé en poudre. Désormais sera transe, silence ou rien du tout. Et nous donc les chiens.
Rien que par le fait d'attaquer le texte et d'engager le corps, c'est une dimension complètement politique et poétique qui explique évidemment d'où parle cet individu-là qui parle. Pourquoi il est obligé de percer l'abcès, ben, ça explique que voilà, il y a des couches et des sous-couches par-dessus, il y a des pierres qui entassent, donc il faut que cette chose-là qu'on pousse pour percer l'abcès. On est en train de fabriquer le plus beau geste de l'humain, cette expression-là de la mise au monde.
Sony arrive chez les chiens et invente la bêtise de se prendre au sérieux. Et paf, la francophonie l'a lâché, la France l'a lâché, l'Afrique l'a lâché, tout le monde est mort en lui. Avant, il avait un masque de chien, maintenant la hyène est sortie à la surface du chien. On a vu la nature de la bête, c'est un humain, on l'a coincé. Il est en quête de quoi, ce zigoto? De la parole, chef. Mais nous, on ne parle pas, on aboie jour et nuit. C'est pour ça qu'il enquête, chef. Il enquête ou il est enquête. Les deux, chef. Mais alors, il est perdu, c'est un compte d'auteur. Silence!
Voix du silence. France Culture. Antoine Spire. Le théâtre avant-garde du combat pour les libertés en Afrique.
Sony Laboutancy, alors pour vous exprimer, vous utilisez le théâtre. Et je pense à cette pièce, Antoine m'a vendu son destin. Est-ce que c'est pas un gigantesque éclat de rire par rapport au pouvoir politique et à son incapacité d'entraîner l'histoire, alors que vous, vous voulez être conseiller de l'histoire et non pas conseiller des hommes politiques?
Bon, un éclat de rire, c'est le mot, je crois. Hein, mais bon, si c'est le public qui rit, ça serait bien. Parce que, justement, c'est ça. Je pense que rien ne sert... aux gens de donner des leçons, d'ailleurs, on les a pas. Ce qu'il faut, c'est rire, éclater. Et dans tous mes livres, il y a quelqu'un qui rit, qu'on prenne les sept solitudes de Lorsa Lopez, il y a ce rire extraordinaire de Sarangatanola, qu'on prenne le dernier que je viens d'écrire, Les yeux du volcan, il y a aussi ce rire et extraordinaire du colosse. Je crois que c'est ça, que le rire est un, je dis pas médicament parce que je me méfie beaucoup des médicaments, mais c'est salutaire quelque part. Ça permet de respirer, de pas être comprimé, et que les choses sont ce qu'elles sont, c'est vrai, mais qu'il faut pas croire que c'est la fin des choses. C'est la fin des choses. Il y a deux choses, je crois, qui sont possibles. C'est le rire ou alors le flingue, quoi. Je ne peux pas dire à tout un peuple, taisez-vous, je développe. Je ne peux pas comprendre ça, c'est des aberrations, mais ça, ce n'est pas spécial à l'Afrique, ça aussi. Les peuples sont généralement plus intelligents que leurs dirigeants.
Pour cela, on voit qu'on arrive à la réalisation des lendemains qui déchantent. Parce qu'on avait dit que les lendemains vont chanter, mais on l'avait dit ça... À l'époque, je dirais fin de l'époque coloniale, donc avant qu'on arrive à l'indépendance, on est dans un fameux chant.
qui est ce lendemain qui chante. On les attendait qu'ils chantent, puis l'indépendance arrive. Yes, indépendance, tcha tcha. La réalité, c'est 3 ans après, quand on arrive à la révolution, là, on a les indépendances qui déchantent parce qu'on rentre dans des systèmes qui deviennent beaucoup plus durs, des systèmes rouges, comme on disait à l'époque. On est passé des systèmes rouges, on est passé à des systèmes militaires, on est passé à des systèmes de pouvoir militaire. Et donc, du coup, on a vu comment ces lendemains déchantent. Mais j'en parle encore d'un point de vue de là où je suis en tant qu'auteur, hein, c'est-à-dire à cet endroit-là, ben, on a vu comment les auteurs ont commencé à être censurés, comment les auteurs ont commencé à être envoyés en exil, comment les auteurs ont commencé à être emprisonnés, et comment évidemment la fermeture de certaines bibliothèques, de certaines librairies ont commencé, comment, on voit très bien comment, au niveau comme ça, de la vie, l'espace culturel commence à être liquéfié complètement, commence à être déchiré, à être caché, sousselé, muselé, tout et tout. Et ça, j'en parle pourtant. J'étais pas encore né, mais j'en parle parce que c'est l'héritage aussi que j'ai reçu. C'est-à-dire, je viens après des gens qui ont été muselés. La suite de ça va donner une certaine colère qu'on connaît, qui va être fin début des années 90, donc avec l'arrivée des démocraties, tout le blablabla, ces conférences nationales-là que moi je vais vivre parce que je suis là pendant ce moment-là et je vais participer à comment, évidemment, les tendances basculent. Et Sony, à cette période-là, comme il a boxé la situation pendant la période rouge, il s'est bataillé tout et tout, et comme un Don Quichotte, agitait les moulins, tout ça là. Mais bon, on dit, bon, ça donne, puis après on dit, c'est du vent parce que l'espace politique est très fermé, mais en même temps, ça lui permet d'exister. Pourquoi ça lui permet d'exister? Personnellement, parce que ça lui donne une place réelle, c'est-à-dire où on arrive facilement à l'identifier comme étant le Tétchumon crieur, le soliste, l'annonciateur, le. Sony arrive par le courage qu'il s'auto-fabrique et la mise au monde qu'il veut absolument créer, nous, on retrouve dans lui la force de se dire, faut appeler les lendemains qui chantent. C'est comme si c'était le seul témoin qui était arrivé de cette grande traversée-là, qui croit encore que les lendemains doivent chanter, évidemment en mettant l'humain là, au centre de toutes les questions bloquées dans cette politique tortionnaire-là. Donc, il deviendra rapidement un exemple assez important pour nous, un père pour nous tous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce passé. S'il n'y aurait pas eu ce passé, bon, il serait certainement un bon auteur, génial, super, comme on en dit après, ça passe. C'est pas le fait qu'il ait été député après, ça n'a rien à voir. C'est son engagement citoyen en tant qu'auteur, en tant que poète. C'est à cet endroit-là qu'il est éminemment politique. Pourquoi? Parce que cette parole qu'il prend au cœur de la cité fait naître des espoirs.
Voix du silence. Une émission d'Antoine Spire.
1991. France Culture.
Aujourd'hui, théâtre et pouvoir.
Sony Laboutancy, bien sûr, vous êtes un auteur congolais, le directeur du Rokozulu Théâtre. Quels sont vos rapports avec les autorités congolaises?
Mais écoutez, moi, j'ai pas vraiment de rapport avec les autorités congolaises, simplement parce que, si vous voulez, c'est pas un problème de pouvoir congolais, autorité congolaise, c'est un problème d'ouverture humaine. Moi, à Brazzaville, j'ai été enseignant. J'étais formé pour enseigner l'anglais aux gens. Je dis, bon, formé pour enseigner l'anglais à des pêcheurs, ils ont pas besoin. Ils ont besoin peut-être d'autres choses. Donc, j'ai commencé à louvoyer par rapport à l'institution de départ. Ensuite, j'étais censé obéir à un mot d'ordre précis, c'est « nous sommes là pour fabriquer l'unité nationale ». Bon, je dis « l'unité nationale », ça veut dire quoi? C'est une folie, ça. Moi, je ne veux pas être aussi pauvre que l'unité nationale, je veux être aussi riche qu'une explosion nationale. Une explosion, chacun de nous est une nation. Chacun de nous est une nation fondamentalement. Les hommes qui peuvent se rencontrer, se rapprocher, ils l'ont décidé. Mais en toute souveraineté, l'homme est créé libre. Je crois ça. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a une espèce de militantisme à avoir vis-à-vis de l'institution qui est réductrice, quelque part. Ça réduit la dimension humaine, ça réduit la dimension du rêve, ça réduit la dimension de l'imaginaire. Prenons le cas du Congo, mais c'est un faux pays. Et c'est un pays qui était fait à Berlin. Comment veux-tu que je m'enferme dans des frontières qui sont faites à Berlin? La seule chose qui vaut la peine pour moi d'être vécue, c'est la possibilité de fraternité que j'expérimente avec les autres hommes. Avec les autres hommes autour d'une occupation commune, autour des idées communes, autour des espérances communes, autour des sensibilités communes, je peux espérer certaines choses. Maintenant, les frontières, enfin, entre nous, on est quand même un peu plus intelligent que les frontières, non ? Je ne sais pas. Chez mon père, quand il arrive, mon père, on dit qu'il est au Zaïre. Et ma mère, on dit qu'elle est au Congo. Et quand il arrive, tu ne sais même pas où est la frontière. Tu ne sais même pas. Bon, alors vraiment, comment on ne peut pas être un peu plus intelligent que ça? Bon, ça peut être aussi les frontières culturelles. Mais là aussi, c'est... Il suffit d'un peu d'imagination pour savoir qu'aucune culture n'est culture vierge. Toutes les cultures se sont intercontaminées, je crois.
Je pense aussi que chez Sony, il y a l'idée de dépasser les frontières coloniales. Hein, il le dit alors plus tard dans le cours de son existence, mais il y a l'idée que finalement la situation est difficile, elle est même un peu bâtarde à cause de la colonisation et que finalement nier les frontières, c'est revenir à une situation plus heureuse. Hein, il le dit à un moment. Alors dans le cycle romanesque de La raison, le pouvoir et le béret, il y a un personnage qui s'appelle Okemba. Et qui est l'ancien premier ministre d'un pays fictif qui s'appelle le Lewongo, mais derrière on peut reconnaître le Congo, qui a un discours véhément en disant que finalement la colonisation a créé des républiques asset, hein, et que finalement les pays actuels africains seraient des figures sur l'échiquier. Il y a aussi cette idée-là finalement de pays un peu artificiels et la volonté de renouer avec quelque chose qui sera antérieur et qui ne serait pas une création coloniale.
Sonny Laboutancy, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des patrimoines culturels qui sont souvent hétérogènes. Qu'est-ce que vous avez de commun avec un Tchèque ?
Qu'est-ce que j'ai de commun avec un Tchèque ? D'abord qu'on me dise, qu'on me mette avec lui, avec un Tchèque. Si toi tu es Tchèque, mettons-nous ensemble et puis on verra si on a quelque chose en commun. Mais il ne faut pas le décider avant. Et qu'est-ce que j'ai de différent avec un Tchèque ? Il ne faut pas le décider avant, c'est tout ce que je demande. Partout où il y a des hommes, je suis chez moi. Tout m'incite à savoir que je suis concerné. Que je suis concerné par l'aventure explosive de l'intelligence.
Toute la beauté du personnage, toute l'ambiguïté, c'est qu'il est multiple. D'un côté, il y a cette aspiration pratiquement universaliste. L'homme avec un grand H, etc., le prophète. Et de l'autre, il y a cet ancrage dans la boue de Brazzaville, cet ancrage Congo. On le voit, hein, dans Rembourser l'honneur, il part du grand-père Congo. Dans La raison, le pouvoir et le béret, à plusieurs reprises, ça apparaît. Donc il y a une tension qui est là, c'est vrai. Et présente dès le départ et qui va peut-être s'accentuer avec le temps, avec un engagement politique qui va arriver à la fin des années 80 et qui va peut-être radicaliser son engagement. Mais c'est vrai qu'il y a cette dualité qui est très intéressante et qu'on retrouve dans les textes.
La rue des Mouches, de Sonny Laboutancy. Présenté par le Congo dans le cadre du Festival de la Francophonie en Haute-Vienne et à Limoges en octobre. Mis en scène par Sonny Laboutancy et Pierre Vial.
1985, enregistré par France Culture.
La pièce que nous allons vous jouer, La rue des Mouches, s'inscrit dans le cadre d'un théâtre vieux comme le monde Congo.
Le Kingisila ou théâtre de la guérison.
Il consiste à donner un rôle à jouer dans une histoire imaginée à un malade dans l'unique but de le guérir.
À la recherche de son vrai visage. La rue des Mouches vient s'asseoir à sa façon entre l'Europe et l'Afrique.
L'une tient dans ses mains la vérité du jour. L'autre, l'avenir.
De toute manière, l'avenir, c'est demain.
On ne peut plus être l'autre.
Comment gérer la différence au meilleur profit de l'homme ? Les proverbes congolais
ont
dit. La haine a pour racine la peur et l'ignorance.
Ne te cache pas derrière ta race.
Ne te cache pas derrière ton village.
Ne te cache pas derrière tes dieux.
Viens avec nous construire la vie. Viens construire l'homme.
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 Pas qui nous sommes.
Sommes les enfermés dans cette haine, enfermés de la génération 5, enfermés à son tour pour 100 jours, au musée des mensonges, au musée des mensonges, le gaspillage continue. Au musée des mensonges, au musée des mensonges, la victoire est au loup.
Édouard Monique, pour le combat de l'homme jusqu'à l'homme. L'acte de respirer. Mon cœur brûle dans cet enfer de mots, il était une fois. Mais pourquoi cette foi fragile, cette foi cassante où les choses étaient mal habitées? Il était une foi à... Pourquoi donc cette foi sédimentaire qui fait mal en moi? Il était une quitté, s'il vous plaît. J'ai payé comptant ma lourde bêtise de respirer. J'ai vaincu la mort et la vie. Maintenant, quitté. J'ai respiré pour... J'ai respiré contre à cause de cette foi limpide où... Ah, regardez, je me fatigue. Être mal cousu, être en construction, être ou seulement chose. Je boxe salement l'amour de nommer la vie, parce que si la viande est prioritaire sur le rêve, il faut au moins une fois être sûr d'avoir eu lieu.
Je me souviens que tu as fait travailler ce poème à tes élèves.
J'ai trouvé qu'il y avait là, dans l'œuvre poétique de Sony, une clé pour peut-être tout le reste de l'œuvre, et que particulièrement cette façon de respirer, ce rythme, cette pulsation, ce pouls qui bat, eh bien on le retrouve et dans le roman et dans l'écriture théâtrale. Et voilà, prendre le pouls de Sony à travers son poème, voir comment il bat, systole, diastole, tachycardie, arythmie, au gré de sa vie, car c'était un jouisseur de la vie, un homme puissamment aimant de la vie, gourmand de la vie. Eh bien, ça se retrouve dans son écriture, je crois que le poème pouvait le traduire, donc j'ai mis les élèves au feu, et je les ai mis en contact avec cette écriture brûlante, respiratoire, oxygénée.
Un bistrot comme le tien, Méziane, c'est le théâtre des existences.
Théâtre de la vie.
Le théâtre de la vie, tu me contredis pas quand je dis ça?
Pas du tout.
Non,
non.
C'est quoi
non.
Le théâtre des existences pour toi?
Le théâtre de l'existence, je pense, pour Sony. Il dit que vous autres, vous, nous, les autres, nous tous. Voilà, donc c'est le théâtre de l'existence, c'est les gosses de la vie. J'ajouterai de moi-même les fleurs de la vie, qu'il ne cite pas. Mon père me disait, les enfants, vous êtes les fleurs de la vie. Sony dit les gosses de l'existence. C'est sa façon d'exprimer nous autres.
Et toi, Jean Damien, c'est quoi pour toi le théâtre des existences?
Oh, c'est-à-dire que moi, j'aime bien les bars. Donc, j'aime bien mettre mon coude sur un comptoir. C'est une espèce de petite scène, un petit théâtre.
Je m'identifie un petit peu à la Boutancy, à Sony, pour être plus intime. Dans le bistrot, nous bistroqués, nous sommes à peu près, en tout cas, dans les mêmes conditions que lui, avec cette diversité de gueules. C'est le seul endroit où il peut avoir, donc, voir et entendre des gueules, comme il le dit, des nez. Il aime sentir, respirer les gens. Et là où il peut respirer les gens, c'est souvent des endroits comme les bars, certainement.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, dans un bar, ce qui est merveilleux, vous voyez, je regarde et puis je vois du thé de Ceylan, je vois de la cachaça, je vois du rhum de Trois-Rivières, je vois du vin de France, je vois du whisky d'Irlande, je vois... Ben voilà, le monde est là. Tous ces flacons sont côte à côte, sympathisent, communiquent. Et puis nous, derrière le bar, ben, c'est un peu la même chose. Il y aura toujours un Irlandais, un Algérien, un Congolais, un Israélien, un Palestinien. Voilà, c'est ça la fraternité. On ne peut pas être en dessous de ces bouteilles qui fraternisent. Nous devons, nous, être fraternisés par notre sang mêlé.
Oui, allez, je suis là, moi j'ai terminé. Mon interview est finie. Pouvez vous asseoir.
C'est intéressant.
Parce que moi, on peut parler à Mme Laetitia, elle est là. Voilà,
on peut. Fini l'art d'exister à tâtons. Le talent de respirer à l'aveuglette. Un petit livre tout couvert de sang, ce n'est pas encore celui-ci. J'époussette mon petit désir d'utiliser la science à se brosser les dents. Je continue ma petite gymnastique de vouloir mettre la tête à sa place et mon gros désir de l'empocher comme un mouchoir qu'on peut se moucher avec. Je tricote ma douce tentation à embobiner ce siècle autour de baguettes d'espoir ou à vouloir l'embourber dans un marécage de valeurs comestibles. Plus comestibles que la longueur du nez et le foie gras. Je continue mon petit refrain d'envie de dévaluer la tête au profit du cœur. Mais pour comprendre ce récit, il faut avoir entendu parler de la tour de Babel, où devait être signé le traité de non-ingérence entre l'homme et ses dieux. Il faut également accepter que le possible est tellement grand qu'il ne laisse aucun torchon d'espace à l'impossible. Préface à La gueule de rechange, pièce de Sonny Laboutancy, publiée dans La chair et l'idée aux éditions des Solitaires intempestifs. Tout petit commentaire là-dessus, c'est pour dire à quel point Sonny était un être riant, qu'il avait beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie. On l'entend dans le maniement de la langue ici, à travers ce texte. Il s'amuse avec quelques petites choses comme ça. C'est presque rabelaisien, cette petite introduction. Donc c'est tout à fait délicieux de voir que Sonny avait cet humour, cette drôlerie, ce sens du grotesque et de la farce.
...1973, extrait de la création radiophonique réalisée par José Pivin pour les après-midi de France Culture, avec Sonny Laboutancy dans le rôle de l'Africain.
À la poursuite des maillots noirs.
Un jour, dans le parc de l'association sportive de l'Île-de-France, dans la forêt de Saint-Cloud, près de Paris, quatre inconnus provoquent Sandard à la course, au saut et au lancement du javelot. Ces individus, revêtus d'un maillot noir, sont d'extraordinaires athlètes venus pour voler à Sandard un bâton en bois vert. Ce bâton permet de suivre en Afrique des chemins mystérieux parsemés de secrets.
Là, ici, on arrive à l'île de Clichy. Et sur la pointe ici, la pointe Amont, vous avez le cimetière aux chiens, qu'on appelle.
C'est des hommes ou bien comment?
Des chiens, ce sont des chiens. Alors les gens demandent qu'on enterre les chiens à cet endroit-là. Et puis après, ils viennent sur la tombe porter des petites fleurs ou un petit os, je sais pas.
Sur la tombe du chien?
Oui, oui.
Des fleurs?
Oui, n'importe quoi, oui. S'ils aimaient.
Il y a même des tombes avec la statue des chiens.
Mais chez nous, vous voyez, c'est une question de valeur. Chez nous, les chiens, bon, on s'en occupe pas beaucoup. Hein. On s'en occupe pas beaucoup.
On leur donne à manger quand même.
Enfin, ils se débrouillent.
Chien, on suit un seul chemin.
C'est rigolo aussi, Sonny. C'est quelqu'un de drôle. Ça fait réfléchir, ça se bagarre, ça gueule. Je crois aussi qu'il m'a appris à gueuler. Enfin, je l'avais déjà, mais il m'a aidé à se dire que c'était bien de crier aussi et de gueuler.
Une lettre qu'il a écrite à José Pivin, ton père. Il me parle de toi. Cette nuit, puisqu'il est 2h30 du matin, le silence de la savane est gonflé du bruit de mes pas sur les marches de la maison de Saint-Leu. C'est déjà un peu vrai tous les soirs. Je remonte l'escalier. Lala, il faut en faire une piviniste fracassante.
Lala, c'est moi.
Clotilde Pivin. Tu as rencontré Sonny en quelle année ?
Sonny est venue chez nous, à la maison, à Saint-Leu-la-Forêt. J'ai très très peu de choses, très peu de flashs. J'ai un flash parce que je sais que on lui donnait ma chambre quand il venait à Saint-Leu. Je le vois monter les marches du jardin. C'est quelqu'un qui fait partie de la maison, du jardin. Mais en fait, Sonny, c'était la famille, quoi. Moi, mon père est mort en 77, donc si on est dans les années 70, donc moi, je suis née en 67, je suis petite, j'ai moins de 10 ans. J'ai très peu de souvenirs physiques de lui, mais après 77, donc après la mort de mon père, il y a toute une correspondance qui arrive. Ça commence en 82 et ça finit en 90. Et c'est dense. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai un sac chez moi de toute la correspondance de Sonny. Ah, 27 mai 1982. Clotilde, j'ai reçu hier ta lettre du 16 mai et je m'empresse de te répondre. Comment dire ? Je suis heureux que tu grandisses de cœur, de corps, de l'esprit. C'est cela que nous sommes, pas seulement les simples monceaux d'atomes avides d'espace et d'énergie. Tu me dis que tu lis Marquès, Singer, Proust, c'est mes écrivains préférés. Stendhal moins, parce que c'est de nature bourgeoise. Maupassant est un grand artiste. Quand tu liras Dostoïevski et Flaubert, tu auras fait le tour du monde. Dans ta lettre, tu culpabilises un peu quant au sens des mots. Tu sais, les mots qui parlent à des gens comme nous savent tout dire. Aux hommes de cœur, mots de cœur. Le Rokado Zulu Théâtre, ma troupe, a donné une pièce hier soir. C'était bien, mais le public n'est pas venu pour la salle comble, comme d'habitude. En ce moment, je suis pris par mon prochain livre, Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez. C'est l'histoire d'une ville condamnée à mort, une cité de 3 millions d'habitants, parce qu'un homme, Lorsa Lopez, y a tué sa femme, qui lui a donné l'époux. J'appelle cela le livre de la mise en femme de la femme. Que te dire d'autre ? Porte-toi bien, sois forte. Sois pas de la viande, fabrique ton cœur pendant que Dieu fabrique ton corps. Car le corps, c'est la route de l'âme. Tendresse et bisous, Sonny Tansy. Sonny Laboutansi, 1281, rue Memba Hippolyte, Makelekele, Brazzaville, Congo. 10 janvier 1983. Salut, j'étais à Paris, mais je courais toujours. S'il y avait un numéro de téléphone, je t'aurais appelé. Tiens, on se croisait tout le temps, on se ratait tout le temps. Je suis, comme je te le disais dans une ancienne lettre, allée quelques jours en Italie, en Belgique aussi. Je suis un peu fautive de ne pas t'écrire souvent, mais je suis un éternel brûlé par le temps, comme les gens brûlent un stop. Je crois que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la moelle, dans ces conditions-là. J'écris beaucoup, pour me permettre de supporter mon temps d'exil intérieur. Tu ne sais pas ce que c'est d'être au milieu des médiocrates, d'entendre des perroquets à longueur de journée. Ouf ! Écris-moi, quelles sont tes idées maintenant ? Comment tu affrontes la vie, tes lectures. Je serais triste si un jour tu étais devenue une petite conne comme on en voit à Paris, accrochée à un tas de rien. J'adore l'âme et la noblesse de corps d'esprit aussi. Je t'embrasse, Sonny Tansy. Toujours Sonny Laboutansi, 1281. Tu vois, maintenant quand je les lis, je me vois en train d'écrire la 1281 rue Memba Hippolyte Makelekele, Brazzaville, Congo. 12 juillet 84. Clotilde. Merci d'écrire, merci de m'envoyer ta courte histoire qui est très forte. Je ne dis pas cela pour te faire plaisir. Ce matin, j'ai lu une nouvelle de Gabriel Garcia Marquez. Très courte, mais très bien. La chute de l'ange. Ce dernier temps, je me frotte la tête contre un scénario à livrer en juillet. Quelle bossure! Mais je pense beaucoup à ceux que j'aime. J'ai leur image dans le fond des personnages que je crée. Cela m'évite d'être seule. Et puis il y a les lettres. Et puis il y a mon petit jardin à arroser le soir, en cette saison de poussière et de gris. Excuse-moi que je n'ai pas le temps de t'écrire une courte histoire, même en 20 mots. C'est dégoûtant de bosser comme je le fais. La vie passe comme un jeu d'enfant. Les Solitudes de Lorsa Lopez sortent en février 85. Je t'enverrai un exemplaire. J'ai commencé à écrire un roman d'amour. Il s'appelle Claire de Lune à Rochaud pour Genevio Saravana. Je compte le terminer dans un an ou deux. Je l'ai commencé le 4 juillet dans la nuit. Repars à ta fenêtre, adoré l'ange. Qu'est-ce que je dis ? Sois-toi, bien forte. Pas de gosse plein de boulons dans la tête, au cœur et dans le ventre. Je t'embrasse très fort, Sonny Tansy. Il y a de la vitesse tout le temps, c'est de l'énergie, c'est que ça soit court, long. Il m'a donné de l'énergie, il m'a donné de la force. Il court tout le temps, il écrit en marchant, en courant. T'as l'impression qu'il cavale tout le temps, quoi. Donc par exemple, là, quelques temps, quelques jours, quelques minutes, je bouge avec toute ta mémoire. De ciel en ciel, d'estime en estime, d'amour en amour, sois si vrai, à bientôt. Sonny, plus loin, la Boutancy. Donc ça donne de la force tout ça.
Sonny la Boutancy, Congo.
1989, Festival des Francophonies à Limoges.
Quelles sont les motivations qui vous poussent à écrire ?
Oh là là, mais il y a toute une infinité de choses sûrement hein, derrière ça. Mais peut-être que c'est parce que je suis un homme torpillé. Qui habite un monde torpillé, peut-être aussi. Parce que je vis dans une société qui, de mon point de vue, est une espèce de laboratoire comme ça de comportement et d'expérience humaine, ça m'intéresse. Et puis, bien sûr, peut-être aussi parce que nous sommes dans un monde qui se dit scientifique, comme si scientifique était le sommet de toute chose. Et ça me gêne, parce que la science aussi a sa magie, et peut-être c'est pour remettre la dimension magique aux choses que j'écris, que je griffonne, que je gribouille, en fait, je ne sais pas trop.
1-2-1-2, Sonny la Boutancy, accélérateur de particules.
Je crois qu'il a raison de s'indigner contre cette sorte de puissance incantatoire qu'on donne en ce moment particulièrement à la science. Parce que la science, en réalité, c'est le contraire de cela. C'est la culture du doute, de l'inconfort, de la déconstruction. Et je crois donc que Sonny la Boutancy est en fait un ami ou un affidé de la science véritable. Parce qu'il est dans une sorte de rappel ou d'appel à un désordre vivifiant. J'écris, disait-il, pour qu'il fasse peur en moi. Voilà, c'est magnifique. Tout est là. Oser le risque de l'intranquillité, ça pour moi, ça serait presque la définition d'un chercheur digne de ce nom.
Sonny la Boutancy, accélérateur de particules. Avec, dans leurs rôles respectifs, Sonny la Boutancy, Aurélien Barraud, Dieudonné Nyanguna, Nicolas Martin Granel, Claire Riffard, Céline Ganungu, Jean-Damien Barbin, Méziane Chiba, Clotilde Pivin. Archivina, Christelle Rousseau, Catherine Louboutin. Extrait des auteurs de la création par Dominique Papon et Michel Toutain, Festival international des francophonies, Limoges 1989. Des extraits d'Antoine M'a vendu son destin, Sonny chez les chiens, une création de Dieudonné Nyanguna au Théâtre National de la Colline avec Diaretu Keïta et Dido. Musique originale de Pidgey. Prise de son, Marcos Darras et Loïc Duros. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Claire Poinsignon et Irène Oumelianenko. Une pièce de Laetitia Biagi, réalisée par Christine Robert.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, ce sera le temps des écrivains. Samedi prochain, à 16h, Une vie, une œuvre sera consacrée à Didier-Georges Gabilly.